Bien, merci. Bien, écoutez, nous allons donc maintenant traverser toute l'Europe à peu près. Et donc, nous allons donner la parole à Anita Vevad qui nous vient de Lettonie et qui est partenaire de nombreux projets de recherche avec nos spécialistes du droit du patrimoine culturel en France, mais ici, c'est bien, non pas dans une perspective, dans une recherche un petit peu générale de droit comparé du patrimoine immatériel que vous intervenez, mais c'est bien pour nous présenter la toute nouvelle, je crois, législation lettonne sur le patrimoine culturel immatériel.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation de participer à ce séminaire. Ça fait vraiment plaisir d'être ici et déjà écouter les premières interventions qui étaient profondément enrichissantes. Et merci aussi pour tous mes collègues français avec qui nous travaillons déjà depuis quelques années pour avancer sur une étude comparative, donc sur différentes législations nationales, un peu à travers le monde. Donc on va voir comment on va avancer dans le temps à venir. Mais donc aujourd'hui plutôt sur le cas de la Lettonie, mais pour le contextualiser un petit peu, je voulais également évoquer l'actualité donc de l'intérêt pour la législation nationale qui est également très présente actuellement à l'UNESCO. Et donc justement sur la même question donc patrimoine culturel immatériel dans la loi et après, on pourrait poser la même question également concernant la convention. Donc ce qui se passe actuellement, c'est aussi un certain lancement de débat, comment évaluer l'impact de la convention ou bien comment définir le succès de la convention. Et ce genre de questions semble très basique, mais en même temps très, très complexe pour donner une réponse qui serait, disons, satisfaisante pour les États dans le monde entier. Et un autre aspect pour l'actualité dans le cadre de l'UNESCO, si on regarde, par exemple, les études des rapports périodiques qui est un format particulier, comment les États expliquent la mise en œuvre de la Convention. Donc la thématique la plus récente pour l'étude de ce genre de rapport, c'est justement les politiques nationales, également la législation au niveau national. Et cette thématique entre de plus en plus également dans tout un cadre du programme de renforcement des capacités qui est mis en œuvre par le secrétariat de l'UNESCO. Et c'est également une réponse, en fait, à une certaine demande des États membres de la Convention pour échanger des expériences ou bien apprendre différentes approches. Comment les différents États parties de la Convention gèrent la mise en œuvre de la Convention dans les termes juridiques. Donc il y a vraiment une actualité très, très large dans laquelle notre discussion d'aujourd'hui entre. Là, je pense que je vais revenir un petit peu sur les questions qui étaient déjà évoquées par Noé tout au début. À mon avis, pour répondre à la question donc le PCI dans la loi et après, c'est très fortement lié à d'autres questions qui la précèdent, et justement, et pourquoi et pour qui. Et ces deux questions sont très, à mon avis, interliées, de manière que différents acteurs peuvent donner différentes réponses pourquoi une certaine loi au niveau national est nécessaire. Et ce genre de questions était certainement posé aussi en Lettonie pendant tout le temps qui a passé pour arriver à la décision de vraiment élaborer une loi nationale. Et toutes les discussions que nous avons eues, ça démontre que ces réponses sont vraiment différentes. Mais en même temps, il n'y a pas fortement une contradiction. C'est juste que ces différentes réponses jouent en même temps pour la même loi. Ici, justement, j'ai essayé de tracer vraiment en grande ligne les réponses que j'ai entendues pendant les débats que nous avons eus en Lettonie, ou bien qui m'a ressemblé d'être assez fortement exprimé pourquoi une loi nationale est nécessaire, pourquoi on devrait l'adopter, et après, certainement, sur le contenu que cette loi devrait avoir. Et là, je pense que ça revient un petit peu aussi sur différents aspects qui étaient évoqués par Noé, sur différents facteurs, disons, de l'État, de l'administration, des scientifiques, etc., qui finalement sont également différents acteurs, y compris aussi ce que nous appelons actuellement comme les communautés. Donc, en commençant d'un côté, donc, référence légitime, donc c'est un petit peu, à mon avis, l'intérêt que portent les États, les administrations, les institutions de l'État, tant au niveau national que municipal. Donc, le fait d'adopter une loi nationale, ça sert par la suite comme une référence que les institutions peuvent utiliser pour la mise en œuvre de différentes politiques. Et alors, il y avait un intérêt à cet égard, y compris par les municipalités. Et là, un petit peu en tout petit commentaire par rapport aux municipalités, que nous avons eu certains cas où, en fait, l'action des municipalités est un petit peu restreinte par le fait de ne pas avoir une référence législative pour que les municipalités peuvent avoir différentes actions via la sauvegarde du patrimoine. Tant, disons, patrimoine matériel que immatériel. Deuxième facteur qui, également, à mon avis, était très important, c'est la reconnaissance de valeur. Et c'est certainement quelque chose, ce qui rejoint l'aspect symbolique que Noé a évoqué. Et c'était un intérêt très fortement exprimé justement par différents acteurs, différents représentants des communautés, des associations, des ONG, etc., en disant simplement que le fait même que l'État va adopter une loi sur le PCI, ça va donner ou ça va justifier ou montrer que le PCI a la même importance que le patrimoine immatériel, que l'État accorde le même rôle ou le même valeur aussi au PCI. Donc c'est un petit peu, disons, vraiment plutôt un intérêt de reconnaissance. Sans entrer en détail sur le contenu même de la loi, mais le fait même de l'avoir, c'est déjà, dans les yeux des communautés, c'est déjà une réussite. La promesse de soutien, et là je reviens plutôt à différentes institutions qui peuvent être pas celles qui sont les institutions de l'administration, mais par exemple différents instituts de recherche, ou différents acteurs qui sont là, ce que certains nomment également comme des... par exemple, en anglais, il y a un terme qui est souvent utilisé comme « cultural brokers » également. Donc, différentes institutions qui sont en fait comme des intermédiaires entre communautés et des institutions de l'État, et qui sont là aussi avec un certain intérêt pour le soutien, pour les ressources à leur disposition, pour qu'ils peuvent avoir leurs activités. Et finalement, référence potentielle, ça revient aux communautés. Et là, je pense justement sur également un certain promis ou une certaine possibilité que la loi puisse être utilisée comme une référence importante pour défendre certains intérêts, certains droits. Et là, je pourrais justement donner un exemple de la Cour constitutionnelle en Lettonie. Il y a quelques années qu'il y avait un cas concernant une communauté qui vit à côté du port de Riga, donc de la capitale, et qui en fait voulait défendre le fait que cette communauté puisse continuer à vivre dans ce territoire, qui devait en même temps être changé en augmentant les territoires du port. Et le fait que cette communauté avait des traditions de pêche assez anciennes, qu'elle voudrait bien continuer, ça n'a pas vraiment joué pour le cours constitutionnel. Même si la référence à la convention était évoquée, ça n'a pas vraiment joué pour la décision finale. Donc là aussi, le fait même d'avoir une loi au niveau national, ça peut renforcer certaines références qui peuvent après être utilisées pour défendre différents droits. Donc ça, c'était un petit peu pour évoquer, disons, le paysage de différents intérêts, différentes expectations par rapport à la législation au niveau national. Et maintenant, pour parler un petit peu plus sur le cas de la Lettonie et disons le contenu de la loi à laquelle on est parvenu, je voulais justement un petit peu évoquer donc le cadre historique, donc pour contextualiser un petit peu là où on est en Lettonie, également par rapport à la présence de la Lettonie dans le programme de l'UNESCO sur le PCI, y compris différentes nominations. Et l'image que vous voyez, c'est également, ça fait référence à une des nominations que la Lettonie, ensemble avec l'Estonie et Lituanie, a eue sur la liste du PCI à l'UNESCO. Donc justement, célébration des chants et des danses. Et cette nomination a eu également un effet législatif très, très direct. Ce que j'ai essayé de démontrer ici, c'est un petit peu l'historique des connexions, d'une certaine manière, des nominations et de la législation au niveau national. Donc vous voyez en fait que la loi qui vient d'être adoptée en 2016 n'est pas la seule concernant le PCI. En fait, il y a quelques années, ou même plus qu'une dizaine, il y a une autre loi qui a été adoptée, donc loi des chants, des célébrations des chants et danses. Et là, je peux mentionner qu'une loi assez similaire, ou disons, qui porte un nom similaire, est également adopté en Lituanie. En même temps, l'Estonie n'est pas tellement intéressée de législer trop sur le PCI. C'est aussi un choix très bien conçu. Mais donc, ce genre de loi a été adopté et très directement avec la référence sur donc le lien avec l'UNESCO, qui à l'époque n'était pas encore le lien avec les listes qui sont là actuellement, mais c'était toujours avec donc le programme qui existait à l'époque, qui était donc les proclamations des chefs-d'œuvre de patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'était en 2003 que nous avons eu ce genre de proclamation, et assez relativement après, donc il y avait cette loi qui a été adoptée. Cette loi porte principalement en fait sur les responsabilités des institutions de l'État et des municipalités pour que la tradition soit continue. Et là, je devrais également un petit peu expliquer l'ampleur de la tradition en disant que la célébration dont la culmination est tous les 5 ans dans la capitale de Riga, vraiment réunissent des gens de dizaines de milliers de personnes qui soit chantent ou dans les chorales ou bien dansent des danses traditionnelles, mais c'est une ampleur considérable. Donc, qui, dans le cadre de la Lettonie, est donc un petit peu géré vraiment par les institutions de l'État. Ce genre de loi est également, à mon avis, une certaine réponse au fait qu'il n'y a pas vraiment la confiance dans la continuité des politiques nationales. Autrement dit, on pourrait bien suggérer qu'il suffirait d'avoir une politique culturelle qui donne le soutien à cette tradition et qu'une loi ne serait pas vraiment nécessaire, qu'il se ferait justement avec une politique culturelle qui serait là. Et en fait, c'est une réponse au manque de conscience que ça peut marcher sans une loi. Ce qui est écrit également dans la loi, c'est un petit peu pour résoudre les questions des ressources financières y compris, en disant que le financement qui est donné pour la continuité de la tradition ne peut pas diminuer de l'année à l'autre. Donc en fait, que le budget qui est accordé peut juste augmenter et sans être diminué. En même temps, au moment où nous avons affronté la crise économique qui était bientôt donc en 2008-2009, il y a certaines parties de cette loi qui étaient, disons, mises sur pause et n'étaient pas vraiment appliquées. Donc ça veut dire que la loi ne résout pas non plus toutes les questions difficiles de la politique nationale. Et donc pour parvenir à la loi, à l'adoption de la loi du patrimoine culturel immatériel qui était fait en 2016, et d'ailleurs vous avez, donc en tout cas la traduction anglaise est accessible, si vous voulez j'ai encore quelques exemplaires pour ceux qui veulent. Ouais. Mais Donc c'est la traduction qui est encore non officielle, mais une traduction officielle sera bientôt également accessible, et une traduction française est également envisagée. Donc c'est juste temporaire de l'avoir uniquement en anglais à ce moment-ci. Mais cela a pris un certain temps en fait pour arriver à l'adoption de cette loi. Tout d'abord, il y avait en 2004 une décision qu'une loi ne serait pas certainement forcément nécessaire, que c'est plutôt la politique nationale qui sera mise en œuvre, tout simplement. Et ce n'est qu'en 2008 qu'il y a une décision du cabinet de ministres qui dit que nous allons avancer pour l'adoption d'une loi. Après, ça n'a pas toujours été parmi les toutes premières priorités de tous les ministres. Donc les ministres changent, et certaines questions sur leur agenda changent aussi. Donc ça ne veut pas dire que depuis 2008, on a constamment travaillé sur le texte. Donc il y avait des discussions plus actives en 2010-11, après une pause pendant certaines années, et puis le travail a été repris vraiment en 2014-2015. Pour donner une vision très large, ou plutôt structurelle sur la loi. Donc la loi est relativement courte, donc il y a 12 articles. Et là j'évoque, disons, il y a 4 lignes principales, mais on pourrait également le structurer autrement. Donc la loi reprend fortement, et très directement d'ailleurs, les définitions qui sont données dans le texte de la Convention, en parlant alors de PCI, de l'élément de PCI, puis également des communautés. Et là, c'est une nouveauté assez importante dans le contexte du système de droit letton, d'avoir le terme de communauté expliqué, donc de donner une certaine définition à ce terme qui est faite autour un petit peu à la référence que ce sont des gens, disons, vous allez voir plus précisément, mais en tout cas, c'est une identité culturelle qui les réunit et également l'intérêt pour sauvegarder ces traditions. Donc, un petit peu, la définition de communauté revient en fait sur ce qui est PCI et également identité culturelle. Et puis, il y a d'autres parties de cette loi. Une partie qui répond plutôt à différentes obligations ou différentes responsabilités des institutions de l'État, des municipalités. Donc, disons, une certaine élaboration d'un plan de sauvegarde au niveau national qui serait pour un certain nombre d'années. Et puis également en une coopération assez forte avec communautés différentes, ONG, etc. Il y a également, ce qui est inclus dans la loi, c'est une certaine possibilité d'avoir le soutien de la Fondation du Capital Culturel, qui est l'institution centrale au niveau national, qui accorde différents budgets pour les projets culturels dans différents domaines. Ça peut être cinéma, ça peut être danse, musique, littérature. Également, il y a un domaine dans le fonctionnement de cette fondation qui s'appelle culture traditionnelle. Et ça a été établi comme ça depuis des années 1990. Et ça continue en fait, ce terme culture traditionnelle continue à être très, très présent en letton. Puis également, les parties qui concernent inventaire national, nomination, également en rétablissement le statut, disons, des célébrations des chants et danses et espaces culturels des soutiques, qui sont les deux nominations dans les listes internationales. Mais à mon avis, c'est un petit peu la partie qui est plus ou moins une réponse déjà attendue, mais un petit peu qu'on peut déjà prévenir quelle serait la réponse donnée dans les lois. Ce qui peut différer d'une manière assez considérable, c'est concernant la question qui était posée par Noé, c'est... disons, les exigences qui sont demandées au niveau de procédure, comment on pourrait procéder avec certaines propositions pour les nominations des applications, etc. Là, les choix peuvent vraiment être très, très différents. Mais le fait même d'avoir un inventaire national, c'est un petit peu la réponse qu'on peut déjà imaginer quand on parle d'une loi nationale. Et le dernier point, et je vais revenir encore au premier point, donc je le laisse un petit peu concernant les communautés et leur droit, je vais y revenir, donc je ne le traite pas à ce moment-ci. Mais le dernier point concernant la collection des archives du folklore letton, c'est un petit peu une particularité de Lettonie, et c'est, ça se trouve justement que le fait même que la loi était préparée et devait être adoptée, c'était une occasion en fait pour donner une certaine réponse à la question qui n'était pas du tout résolue. Et en fait, il concerne, nous avons vu tout à l'heure, que je ne vais pas mentionner, mais en 2001, c'est le cabinet des chants folkloriques qui était inscrit dans un autre programme de l'UNESCO qui traite en fait les questions de patrimoine documentaire. Donc différents documents qui peuvent être sous différents formats. Et donc là, il y avait une nomination de Lettonie concernant le cabinet des chants folkloriques qui en fait est un format comment le PCI ou disons les chants folkloriques ont été documentés. Et plus précisément, ça donne un petit peu la vision de ce qui est. C'est un cabinet en bois qui était élaboré fin 19e siècle et qui était fait par la demande d'une personne sous le nom Christianus Barons, qui à l'époque faisait la collecte des chants folkloriques fin 19e. Il n'était pas seul à le faire, il avait tout un réseau en fait, des correspondants qui envoyaient les chants folkloriques de partout en Lettonie. Mais le résultat était tel que c'était des petits papiers où il y avait des chants folkloriques en quatre lignes, et chaque chant était sur une feuille séparée. Donc ça fait qu'il y a tout un cabinet avec ce genre de feuilles bien ressemblées, et il y avait certainement un ordre dans la manière comment c'était fait. Mais la situation était telle que ce cabinet, avec tout son statut qu'il avait dans cette liste, ce registre de mémoire du monde, il n'avait aucun statut au niveau national. Donc il n'avait aucun lien, disons, par rapport à la loi du patrimoine matériel, ou bien une loi, disons, qui porte sur les archives, ou bien bibliothèque, comme actuellement il était placé dans la bibliothèque. Mais il n'avait aucun statut dans le cadre d'aucun loi. Il était juste un petit peu par coutume, il était toujours maintenu par les archives du folklore letton, les archives qui étaient établies donc, en 1924, et qui continue toujours d'exister. Donc les chercheurs ont bien maintenu le cabinet, mais ils n'avaient aucun statut. Donc le moment où la loi sur le PCI était élaborée, donc c'était très fortement un intérêt qui était défendu par ces scientifiques, par des gens qui représentent la discipline de folklore, pour que, d'un côté, pour que le cabinet pourrait avoir un certain statut. Et comment on peut voir dans le texte de la loi qui dit que donc, le cabinet est la propriété de l'État qui est indivisible et donc est reconnu en tant qu'un élément très important. Là, il y a, à mon avis, il y a aussi une certaine contradiction dans le texte de la loi, de manière que, comment c'est dit, que la collection des archives du folklore letton, y compris le cabinet, fait partie du PCI, qui à mon avis n'est pas vraiment à 100% une réponse logique par rapport aux différents concepts qui sont là. D'un côté, donc, il y a le patrimoine documentaire, qui est donc, ce que les archives du folklore letton ont dans leur collection, y compris le cabinet. Et le PCI est quelque chose qui est tout de même différent. Mais donc dans le texte de la convention, c'est dans la loi, c'est un petit peu voilà le manière comment disons la question de cabinet pourrait entrer dans le texte de la loi, c'est-à-dire que voilà ça fait partie de PCI de la Lettonie. Un autre aspect qui était là, c'est et ça jouait forcément aussi d'une manière importante, c'était la question de la place où ce cabinet se retrouve. Et là, en fait, il s'agit de la Bibliothèque nationale de Lettonie, qui est construite en 2014 au plein centre de Riga, au bord du fleuve Daugava. Et en fait, donc vous pouvez un peu imaginer que le cabinet de chambre folklorique se retrouve au cinquième étage dans ce bâtiment et dans un endroit qui est bien fait spécifiquement pour que le cabinet puisse être vu par le public. Auparavant, c'était dans un complètement, il y a un autre bâtiment et le cabinet était vraiment un petit peu, disons, caché. Si quelqu'un voulait vraiment le voir, il fallait que les chercheurs, les gens des archives du folklore vraiment ouvrent une petite chambre et puis un autre cabinet en métal. Et puis il y avait le cabinet en bois à l'intérieur, mais ce n'était pas du tout en fait, fait pour que le public puisse le voir. Donc maintenant, c'est une situation complètement différente. Mais la difficulté qui était là et qui était un intérêt très pratique par les archives du folklore letton, c'était également une certaine incertitude du statut de l'institution, donc du statut des archives du folklore letton. Et cette incertitude, ça a une certaine historique. En fait, dans les années 20 du XXe siècle, il y avait une réglementation spécifique qui a été adoptée par le ministère de l'Éducation sur les archives du folklore letton. Et là, c'était un soutien assez important pour l'institution. Après tout le coupage, disons, de l'époque soviétique, après, les archives du folklore letton n'avaient pas vraiment un soutien ou une base aussi forte en termes législatifs. Et cette incertitude concernait vraiment aussi le financement pour l'existence de ces archives. Autrement dit, les archives du folklore letton n'étaient pas en fait à 100% persuadé que dans les années qui viennent, il y aura suffisamment de financement pour assurer que cette institution puisse continuer d'être dans l'établissement de la bibliothèque. Comme la bibliothèque est une institution à part et les archives, ils louent en fait les locaux dans la bibliothèque. Autrement dit, une des conséquences de la loi, c'est que concernant donc, le texte tel qu'il est adopté, que l'État prenne une certaine responsabilité, que ces archives vont continuer à être placées ou se retrouver dans le bâtiment de la bibliothèque, y compris dans les termes financiers, pour répondre à la présence des archives dans la bibliothèque. Donc c'est juste en fait un certain exemple pour le fait qu'il y a certainement différents intérêts très très précis qui sont derrière l'élaboration d'une loi. Et le texte même de la loi, des fois, si l'historique manque un petit peu, donc on peut poser la question pourquoi la loi est telle qu'elle est. Mais il y a des certaines raisons pour que la loi soit telle qu'elle. Et là, je reviens à nouveau à cette question donc PCI dans la loi et après. Et donc là, j'ai essayé de distinguer deux aspects qui, à mon avis, sont assez importants. Le premier, qui rejoint, je pense, à nouveau, disons, de l'aspect symbolique qui a été évoqué par Noé, où je l'ai nommé ici ordre conceptuel. Qui, je pense, à mon avis, on ne peut pas le sous-estimer. On a vu tout à l'heure toute une richesse en fait, des concepts de différents termes qui sont utilisés en Espagne. Et c'est vraiment, à mon avis, une richesse de différents termes qui sont utilisés. Mais le fait même d'une adoption d'une loi au niveau national, ça peut changer d'une manière assez considérable en fait les termes qui sont utilisés. Déjà la convention a eu un certain impact, mais également une loi nationale peut contribuer en fait à cette question conceptuelle. Dans le cas de la Lettonie, là je distingue deux ensembles de concepts. D'un côté, il y a des concepts qui, à mon avis, s'éloignent un petit peu, donc qui n'ont pas du tout, pas encore complètement exclus du discours, mais qui s'éloigne donc comme art des amateurs, art populaire, culture populaire. D'ailleurs, pendant l'élaboration de la loi, il y avait une proposition qu'on devrait bien expliquer en fait tous les concepts que nous avons. Même si en fait la loi, même si dans le texte après on ne parle que du PCI, mais au début on devrait bien faire en éclaircissement comment on comprend différents termes. Cette proposition finalement n'a pas été maintenue, mais en tout cas il y avait également ce genre d'entrée. Et ces termes ont différentes histoires. Il y a des termes qui reviennent vraiment fin 19e, début 20e. Mais il y a des termes qui ont un certain héritage de l'époque soviétique, mais qui est toujours très, très présent. Et le fait même d'adopter la loi, ça devient aussi une référence pour le changement de discours, également complètement en dehors du contexte juridique. Et puis, il y a des concepts, disons, parallèles ou qui continuent d'être très, très importants, comme culture traditionnelle. J'ai vu également que dans le cas de l'Espagne, c'est également un terme qui est bien utilisé, donc culture traditionnelle. Folklore, également maître d'art. Et là, ça revient peut-être donc, à l'histoire ou le cas de la France, où ce terme est également employé. Et il y a toujours un intérêt assez fort pour ce genre de reconnaissance de statut de maître d'art. Et donc ça continue d'être un terme bien utilisé. Et donc de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler comme ordre opératoire, ou disons tout ce qui résulte de l'adoption de la loi, qui peut être une certaine disons, activité, soit de la part des institutions de l'État ou une municipalité, ou bien de la part des communautés. Et non seulement dans le domaine de PCI très, très directement, mais également dans les domaines liés. Et j'ai évoqué tout à l'heure la question de patrimoine documentaire, mais il y a un autre domaine qui est directement mentionné dans la loi, et c'est le domaine de l'éducation. Et là, par exemple, très concrètement, ce qui peut être comme un effet de l'adoption de cette loi, c'est que ce qui est envisagé, que les représentants de différentes communautés qui pratiquent différents éléments de PCI, qu'ils pourraient contribuer en fait au processus de l'éducation en différentes manières, en différents niveaux. Et c'est une réponse au fait que normalement, dans le système de l'éducation, il y a tout un ensemble de critères, de demandes, de expériences pédagogiques ou différentes exigences par rapport à un individu qui pourrait devenir soit un instituteur ou un professeur. Alors que là, par le chemin de cette loi, on pourrait avoir quelqu'un qui justement a une connaissance importante de PCI, qui peut devenir partie, disons, du système de l'éducation. Et là, à ce moment, je pourrais vous évoquer, en fait, très rapidement, quels sont les différents droits des communautés qui sont envisagés dans la loi. Et ça va être vraiment le point conclusif, disons, de mon intervention. Très précisément, vous pouvez certainement les voir dans le texte de la loi. Mais à mon avis, il y a trois grandes lignes, comment on peut distinguer quels sont les droits qui sont envisagés dans cette loi, donc droits qui sont donnés, attribués aux communautés. Premièrement, c'est une réponse au principe de participation. Et c'est un principe fortement présent dans le texte de la Convention même. Et donc ici, dans la loi lettonne, on reprend l'importance de la participation des communautés, y compris dans l'élaboration de différentes politiques nationales municipales, donc sur la sauvegarde de PCI, y compris sur différentes propositions des éléments qui peuvent être nominés au niveau national ou différentes propositions sur ce qui devrait faire partie d'une liste nationale de PCI. Ou bien, tout à l'heure, j'ai évoqué donc, cet aspect de l'éducation. C'est également un certain droit de participer au système de l'éducation, y compris dans différents formats de l'institution. Deuxièmement, c'est une spécificité qui est introduite par cette loi. Ce sont des droits au titre de l'élément. Autrement dit, quand une tradition culturelle, si on le nomme ainsi, est inscrite sur la liste nationale, sous un certain titre, que la communauté qui est liée à cette tradition puisse en fait avoir un certain contrôle de manière comment ce titre est utilisé. Deuxièmement, c'est le droit à la référence à l'élément. Et ça concerne également principalement des situations si un élément est inscrit sur la liste nationale, pour que dans les cas où, soit dans les contextes commerciaux, mais pas uniquement, s'il y a des activités en lien avec ces expressions de PCI, pour qu'il y ait une référence donnée sur ce que c'est. Et troisièmement, donc sur droit à l'information, sur l'élément, ce qui principalement est une réponse au fait que les communautés devraient savoir, par exemple, quelles sont les études faites sur leur tradition. Donc, autrement dit, que voilà, il y a un droit, un accès à l'information sur l'élément de la communauté. Donc, ça, c'était un deuxième ensemble, disons, des droits, donc droit au titre, à la référence et à l'information. Et troisièmement, troisième grand point de ces droits, et ce qui est nommé dans la loi comme le droit à ne pas participer. Notamment dans les activités de sauvegarde du PCI qui sont élaborées par d'autres personnes, soit institutions de l'État, de municipalités ou d'autres acteurs, et pas par la communauté. Donc le droit de ne pas s'engager dans les activités qui sont proposées. Autrement dit, que ça exclut les situations où, par exemple, une certaine activité serait imposée par l'État ou par municipalité, ou qu'il y a certaines contraintes données à la communauté de s'engager à certaines activités. Même si l'élément est inscrit sur la liste nationale, ça n'implique pas que la communauté devrait poursuivre certaines activités qui leur seraient proposées. Donc c'est un petit peu en recul pour éviter, disons, différentes situations qui seraient contraignantes par rapport aux libertés des communautés de sauvegarder ou pas, en fait, finalement, leur PCI. Donc c'est en traçant vraiment des grandes lignes de la loi qui vient d'être adoptée. La loi est entrée en vigueur le 1er décembre, donc c'est juste deux petites semaines depuis son entrée en vigueur. Donc là, je peux vous donner aucun commentaire par rapport aux effets vraiment de cette loi. Ce qui se passe actuellement, c'est le Centre national pour la culture qui est en train d'élaborer d'autres textes plutôt réglementaires sur le conseil du PCI qui va être établi, ou bien sur la procédure des nominations pour la liste nationale. Mais pour le moment, nous n'avons encore aucune expérience vraiment de l'interprétation de cette loi. Donc c'est vraiment quelque chose de tout fraîche que je vous raconte. Et donc j'espère que je pourrai donner plus de différentes choses concernant son application. Et je vais conclure justement en revenant à notre cher projet de SMOSE. Et je me réjouis également qu'il y a un intérêt pour les résultats à venir. Et nous avons également évoqué et expliqué le projet au secrétariat de l'UNESCO, et il y a certainement un intérêt de savoir quelles vont être des conclusions que nous allons apporter. Et c'est encore un travail fortement à venir. Merci.
Merci pour ces nouvelles fraîches, donc. C'est une actualité qui est toute neuve. Est-ce qu'il y a des questions ? J'oublie pas. Donc on a peu de temps en fait pour des questions. Oui.
Merci. Oui, juste un mot pour dire que j'ai été frappé que dans le cas espagnol, aussi bien que dans le cas letton, la corrélation entre patrimoine documentaire et patrimoine immatériel est écrite en toutes lettres dans la loi. Ça me semble être une sorte d'avance prise sur la pratique actuelle de l'UNESCO, puisque vous savez que ce n'est pas le cas du tout à l'UNESCO. Aujourd'hui, il y a deux conventions patrimoniales qui sont gérées par le secteur culture et un programme patrimoine documentaire, mémoire du monde, auquel vous avez fait allusion, qui est géré par un autre secteur, et il n'y a pas de communication entre les deux. Je dois dire que, pour ce qui concerne la situation en France, on est dans un cas un peu analogue. Ça communique mal et on peut avoir très bien une réflexion de protection sur des archives sonores en tant qu'enregistrement, alors que, par ailleurs, le contenu qui relève du patrimoine immatériel va être traité dans d'autres instances. Et de ce point de vue-là, l'exemple letton que vous avez développé sur le cabinet des archives du folklore letton me semble très, très, très intéressant. Et je mentionne ça simplement parce que ça me semble être une piste supplémentaire à ajouter à celles qui ont été évoquées tout à l'heure pour trouver les nécessaires prolongements à l'inscription du patrimoine culturel immatériel maintenant dans la définition qui figure en préambule de notre loi sur le patrimoine.
D'une communauté autonome de l'Espagne, l'Asturias, au nord de l'Espagne, c'est le musée du peuple d'Asturias qui a deux archives qui sont aussi l'archive de mémoire orale et l'archive de musique traditionnelle qui sont les responsables de gérer le patrimoine culturel immatériel de cette communauté. Donc la relation, c'est vrai que de patrimoine documentaire et de patrimoine immatériel, c'est nécessaire, même si on a ces cas particuliers dont il est en fait bon.
Non, mais je peux justement en fait rejoindre ce que vous avez évoqué sur l'importance de bien penser en fait sur différents liaisons qui sont là. Et déjà, par rapport au patrimoine documentaire, nous pouvons même observer qu'au niveau national, des fois, il y a même un dialogue entre des archives, des bibliothèques, des musées qui manquent, en fait. Donc, ce n'est pas uniquement le dialogue entre différents domaines, mais même au sein d'un même domaine. Donc, espérons justement que ce genre de différents développements, que ça va contribuer pour que ce dialogue soit plus actif. Merci.
Une toute petite question pour les deux intervenantes. Les articles 13 à 15 de la Convention, en principe, c'est la déclinaison au niveau national des objectifs globaux de la Convention. C'est en fait la déclinaison de ce qui est énoncé à l'article 2, paragraphe 3, quand on définit la mesure de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et je voudrais savoir quel rôle ont joué ces articles dans l'élaboration des textes de loi, tant en Espagne qu'en Lettonie. Est-ce qu'on y a fait explicitement référence? Est-ce que ça a pu servir un petit peu de fil rouge pour guider la réflexion sur les mesures qui pourraient être prises justement pour entrer concrètement dans la sauvegarde du patrimoine immatériel au-delà de la mise en place notamment de l'inventaire?
Au cas de l'Espagne, le concept de sauvegarde de la Convention est repris aussi dans la loi, littéralement, comme aussi que le concept. Il dit que sur la mesure suivie pour la valeur, tous les verbes de la sauvegarde. Et il ne fait pas dans la loi, même s'il ne se fait en spécification dans le plan national, mais dans la loi, il ne fait pas une spécification de ça doit être fait à travers les inventaires, les études et tout ça. Non, il n'est pas détaillé.
Merci.
Je pense que dans les discussions que nous avons eues pendant l'élaboration de la loi, il y a à mon avis, disons, l'esprit général de la Convention qui était présent là, de manière que ce qui est dit aussi dans le texte de la Convention, que différentes mesures adoptées au niveau national devraient, d'une certaine manière, également répondre à la situation spécifique qui est là dans l'État. Donc, même s'il y a un certain ensemble de différents instruments qui sont envisagés par la Convention, qui sont un petit peu attendus par la mise en œuvre de la Convention et donc des réponses qui pourraient être données par les États, mais que les États peuvent également choisir leur propre manière, pardon, comment répondre à la mise en œuvre de la Convention. Et là, je peux justement donner également un petit commentaire que ce qui était décisif pour le contenu de la loi, finalement, c'était dans les débats que nous avons eus dans le Parlement. Il y a différentes choses qui, en fait, n'ont pas été maintenues dans le texte de la loi tel qu'il était parvenu par le Parlement, mais qui, en fait, ont été mis à nouveau dans le texte, là, dans les discussions parlementaires. Et également, en fait, comme la volonté de répondre à la situation nationale par le texte de la loi.
Merci. Écoutez, je crois que nous allons en rester là parce qu'il est maintenant temps de parler de la présentation du livre de Martha Severo. Je crois qu'on peut encore remercier nos trois intervenants pour cette rencontre et pour ces éclairages très, très intéressants et qui seront certainement des outils aussi pour l'avenir pour nous tous. Je crois qu'on peut encore les applaudir.